Bonsoir, Dialogue entre Congolais reçoit en invité spécial le ministre des Finances Matata Ponyo-Mapon qui répondra aux questions relatives au point d'achèvement au pacte de doublement des recettes à la lutte contre la fraude douanière ainsi qu'à d'autres questions d'actualité. Bonsoir monsieur le ministre et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Vous êtes également très nombreux à réagir, vos chers auditeurs. Modeste de Mbandaka, l'Équateur, dit « Le gouvernement doit 5 mois de salaire aux douaniers. L'actuel ministre nous a promis de ne payer qu'à partir du mois de mars, sous prétexte que le reste des mois ne le concerne pas puisqu'il n'était pas encore aux affaires. Et dites-nous, qu'allons-nous devenir ?» Louis Kabongo d'Atlanta aux États-Unis, comment le ministre entend lutter contre les grandes personnalités qui sont à la base de la vaste fraude douanière ? Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission ? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Monsieur le ministre, je vous propose que l'on attaque cette émission par le point d'achèvement. Nous sommes à 70% et nous approchons le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. C'est la satisfaction de Jean-Claude Nachega, directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, qui sortait d'une réunion d'évaluation hier sur la mise en œuvre des 7 déclencheurs du point d'achèvement. Cette réunion regroupait à l'hôtel du gouvernement tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RDC autour du Premier ministre Adolphe Mojito. Je vous prie de suivre ce reportage d'Agathe Mpona.
Cette réunion regroupait à l'hôtel du gouvernement tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la RD Congo autour du Premier ministre Adolphe Mojito et quelques membres du gouvernement. Les différents membres du gouvernement et partenaires ont commenté les 7 conditions ou déclencheurs à travers le document stratégique pour la réduction de la pauvreté, la stabilité économique, l'utilisation de l'épargne budgétaire, la gestion des dépenses publiques, la gouvernance, la prestation des services dans les secteurs prioritaires qui sont le secteur social et rural, ainsi que la gestion de la dette. Concernant l'évaluation conjointe du DSRP, il se dégage une note satisfaisante par les services du FMI et de la Banque mondiale. S'agissant du cadre macroéconomique, il résulte une stabilité du taux d'inflation et du taux de change sur le marché qui a tourné ces 3 derniers mois autour de 899 francs congolais le dollar, occasionnant ainsi une stabilité des prix sur le marché. L'utilisation de l'épargne budgétaire, la gestion des dépenses publiques, la gouvernance et prestation des services dans les secteurs sociaux et ruraux, ainsi que la gestion de la dette offre également une occasion de satisfaction quant à la réduction de la dette de la RDC. Tout ceci constitue certes une bonne nouvelle économique, mais les analystes avertis parlent déjà du revers de la médaille qui serait le mécontentement social, car en voulant stabiliser le cadre macroéconomique, l'État a pris la décision de ne dépenser que sur base caisse. Et en voulant répondre à cette exigence, certaines dépenses sont supprimées, notamment la paye des agents de l'État.
Merci Agathe Mpona. Monsieur le ministre, il y a cet auditeur Jackson qui écrit de Kisangani en province orientale qui dit « Le ministre peut-il bien expliquer en des termes simples ce que signifie le point d'achèvement, que tout un monde à Kisangani, notamment les étudiants, les élèves et les fonctionnaires n'arrivent pas à bien comprendre, et que gagne le peuple dans ce vocable ?»
Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir invité à cette émission. En ce qui concerne la préoccupation sur la compréhension du point d'achèvement, il faut dire que la recherche du point d'achèvement n'est pas mystique. C'est tout simplement un processus de normalisation de la gestion macroéconomique en vue d'envoyer un signal fort à nos partenaires au développement qui devrait permettre à la RDC de bénéficier d'une remise substantielle de sa dette extérieure. Donc, c'est un mécanisme par lequel les bailleurs de fonds deviennent convaincus de la bonne volonté des opérateurs politiques à pouvoir améliorer la gestion macroéconomique. Et une fois que ce signal est envoyé, au travers ce qu'on appelle les critères quantitatifs, les critères structurels, les déclencheurs, en fait, ce sont ce qu'on peut appeler des signaux de feux rouges, de feux jaunes, de feux verts, qui permettent, auprès de qui nous nous sommes endettés, de se rendre compte qu'il y a une bonne volonté des autorités du pays d'assurer une gestion macroéconomique rationnelle des affaires de l'État. Et pour ça, écoute, on vous accorde la remise. Donc, le point d'achèvement ne doit pas être considéré comme un point mythique, non,
et mystérieux.
Il faut le comprendre comme étant un processus de dialogue avec le partenaire au développement, un processus de normalisation de la gestion macroéconomique, un processus d'efficience dans la façon d'exister d'une nation. Parce que quand on vous dit qu'il faut stabiliser le cadre macroéconomique, mais écoutez, il ne faut pas que ça vienne de l'extérieur. La stabilisation des cadres macroéconomiques devrait faire partie des critères de gestion normale dans un pays. Un exemple, pour que tout le monde comprenne. Faut-il qu'on vous dise qu'il ne faut pas avoir la fièvre pour bien vivre? Non. L'inflation, c'est comme une fièvre dans un corps humain. Personne ne peut vivre avec la fièvre. Il faut être en bonne santé, et donc il faut normaliser sa façon de vivre.
Alors, monsieur le ministre, l'atteinte du point d'achèvement rime-t-il avec l'amélioration du social? Il faut dépenser sur base caisse, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez. Est-ce que le Congolais qui vous suit maintenant peut s'attendre à un bon salaire et à une augmentation de salaire et à un changement du social?
Ben écoutez, moi je pense quand on dit la normalisation de la situation macroéconomique, ça ne peut que favoriser l'amélioration des conditions de vie de la population. Prenons l'exemple de la situation macroéconomique actuelle. Depuis que le nouveau gouvernement est en fonction, on observe une stabilité relative des prix intérieurs et du taux d'échange.
Mais est-ce que cette stabilité se ressent dans l'assiette du Congolais que je suis en ce moment?
Oui, mais prenons l'exemple. Lorsque vous avez 100 francs congolais et que vous devez acheter, prenons un bien qui coûte 100 francs congolais, ça vous permet d'avoir ce seul bien. Demain après demain, si ce bien coûte 120 francs congolais, que vous avez 100 francs, vous ne saurez pas acheter ce bien-là. Donc, ne fût-ce que la stabilité macroéconomique offre déjà à des milliers de citoyens la possibilité d'acheter le même bien aujourd'hui, demain et après-demain. Ce qui n'était pas le cas.
Mais à l'inverse, alors, monsieur le ministre, oui. Si vous avez 100 francs et que le lendemain c'est 100 francs, mais que l'on vous paye 80 à un taux moindre, rien ne change.
Ben justement, c'est ce que je vous dis. Nous devons d'abord être d'accord qu'une stabilité relative des prix intérieurs offre la possibilité à une personne qui dispose d'un revenu stable de pouvoir acquérir ce même bien pendant une durée relativement longue. Et que lorsque il y a hausse des prix intérieurs, il y a dépréciation monétaire, il y a baisse du pouvoir d'achat de cette personne. Deuxièmement, il faut savoir que la stabilité relative du cadre macroéconomique offre l'opportunité aux opérateurs économiques de faire de bonnes affaires. Et donc, lorsque l'économie tourne, les emplois se créent, il y a une résorption progressive du chômage. Ça, c'est un fait. Autre chose qu'il faut voir le profit qu'on tire dans la stabilité du cadre macroéconomique, il ne faut pas l'oublier, vous savez que lorsque le cadre macroéconomique est stable, il y a une certaine facilité à pouvoir anticiper ce qu'on peut faire dans l'avenir. Et donc, il y a une certaine assurance au niveau des opérateurs économiques, il y a une certaine prévisibilité dans tout ce qu'on fait, et ceci offre la possibilité d'un accroissement des volumes d'activité dans le pays. Et donc, il faut croire que la stabilité du cadre macroéconomique est un outil, à mon avis, utile pour pouvoir améliorer la gestion des affaires publiques dans un pays.
Mais jusqu'à quand cette stabilité va-t-elle se remarquer ou se faire remarquer? Parce qu'on se souvient que le gouvernement passé a presque connu les mêmes problèmes. Hein. Après, à un moment, il y a eu des flottements avec la crise financière internationale. Jusqu'à quand cette stabilité?
Bon, écoutez, la crise financière internationale ou la crise alimentaire, ça, c'est ce qu'on appelle en économie des chocs exogènes. sous réserve des chocs exogènes, nous pouvons dire que une gestion efficiente des finances publiques, couplée à une gestion rationnelle des questions monétaires, est de nature à pouvoir stabiliser de manière durable les taux d'échange, tout comme les prix intérieurs.
Monsieur le ministre, il y a Delphin Mobili de Kinshasa qui dit « Comment est-ce que le ministre des Finances peut justifier le fait que l'adhésion de la RDC à l'initiative PPTE n'a pas d'impact sur le plan social, d'autant plus que les ressources affectées au service de la dette auprès des partenaires multilatéraux sont reversées dans les comptes du Trésor public pour être affectées au social? En quoi peut-on dire que la RDC est sur le bon chemin pour que sa dette puisse être effacée de 80%.
Bon, je crois que vous avez vous-même suivi un reportage d'un de vos collègues sur les principales conclusions ou les principales observations de la réunion tenue par Son Excellence le Premier ministre avec l'ensemble des bailleurs de fonds pour faire le point du processus vers l'atteinte du point d'achèvement. Je crois qu'il s'avère aujourd'hui que du point de vue macroéconomique, du point de vue de la réalisation des critères quantitatifs, des repères structurels, des déclencheurs, il s'avère que pour le moment, la gestion macroéconomique est favorable à l'atteinte du point d'achèvement. Et puis, lorsque le pays devra atteindre ce point d'achèvement, comme on l'a dit, on devra bénéficier d'un allègement substantiel de notre dette extérieure, ce qui permettra certainement, au pays et au gouvernement de pouvoir réaffecter le plus value aux activités sociales. Et donc, si notre compatriote veut savoir à quoi ça sert le point d'achèvement, nous pouvons répondre très directement que ça permet l'effacement d'une grande partie de la dette extérieure et les ressources qui devait être affecté au paiement de la dette extérieure, devait davantage servir à la réalisation des actions socio-économiques en faveur de la population.
Un autre auditeur, monsieur le ministre, c'est Blaise Osongo de Kananga au Kasaï-Occidental qui dit « Même si la RDC atteignait le point d'achèvement, rien ne changera dans le vécu quotidien du Congolais. »
Non, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste dans la vie, parce qu'aujourd'hui, nous vivons une situation où une bonne partie de nos ressources internes sert au paiement de la dette extérieure. Il va de soi que demain, après-demain, si nous atteignons le point d'achèvement et que cet effacement de la dette extérieure partielle se réalise, les ressources seront dégagées et pourront être consacrées à la réalisation des actions sociales. Et donc, à mon avis, logiquement, là nous restons dans les domaines de la logique, logiquement, le gouvernement devait disposer au niveau de son budget davantage de ressources pour la réalisation des actions socio-économiques.
Il a souvent été reproché au gouvernement congolais des excédents budgétaires, un problème de bonne gouvernance. Pouvez-vous dire à ce jour que c'est une question résolue?
Bon, écoutez, la bonne gouvernance, c'est un processus. On ne peut pas dire qu'on a atteint la bonne gouvernance à 100%, même dans le pays développé. Vous suivez, les questions de corruption sont des questions qui sont d'actualité, même si elles sont peut-être de manière très marginale et peut-être moins significative. Pour la RDC, nous pouvons dire que Son Excellence, le Président de la République, s'est engagé fermement dans la lutte contre la corruption, s'est engagé fermement contre la fraude sous toutes ses formes. Et sur ce point, nous pouvons même dire qu'au niveau du gouvernement, vous suivez l'action qui est menée par le ministère de la Justice avec la tolérance zéro. Et nous devons être honnêtes d'accepter qu'au jour d'aujourd'hui, il y a suffisamment de signaux qui indique que le gouvernement de la République s'est engagé résolument et fermement contre la lutte, il s'est engagé pour la lutte contre la corruption contre la fraude sous toutes ses formes.
Un dernier auditeur hein, par rapport à ce premier thème, Jean Bosco de Chicapa, qui dit « Pourquoi les dépenses politiques ont-elles la priorité sur les dépenses sociales ?»
Bon, écoutez, c'est une question relative, parce que il y a la politique, il y a l'économie, mais globalement, je crois que il y a des choses qui pèsent sur la vie de la gestion politique lorsqu'un pays est en guerre. Lorsque un pays est en insécurité, il vaut mieux garantir d'abord l'intégrité territoriale du pays que de pouvoir faire les affaires, parce que vous ne pouvez faire de bonnes affaires que dans un cas de stabilité politique.
Il y a une réaction qui vient de tomber à Goupio Ejiku de Arouan, province orientale. Depuis sa nomination, c'est-à-dire votre nomination, quel est le bilan des actions en justice initiées par le ministre des Finances pour détournement, fraude, etc.?
Nous venons juste d'arriver, c'est vrai, ça fait près de 50 jours que nous sommes au gouvernement. Nous n'avons pas, il faut le reconnaître, encore été en justice quelqu'un pour détournement des fonds. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on arrive à la justice, c'est qu'on a franchi certaines étapes. Mais ce que on doit comprendre aujourd'hui, c'est que nous avons procédé à la suspension de certaines personnes qui ont été impliqués dans des opérations qui, de première vue, ne sont pas conformes aux règles et aux usages à la matière.
Il y a des suspensions dans ce pays, il y en a eu, hein, qui se sont muées en mutation et puis en promotion.
Bon, écoutez, vous vous référez toujours aux cas qui ne sont pas, qui ne constituent pas des exemples modèles. Il faut attendre. Lorsque on déclenche une action disciplinaire contre un individu, c'est une présomption. Il faut laisser à la personne, conformément au règlement à la matière, la possibilité de se défendre, quitte à ce que les conclusions soient faites pour savoir si réellement il est fautif ou pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que près de 50 jours, il ne faut pas en faire un bilan qui serait fait sur 2 ans ou 3 ans.
Nous prenons le deuxième thème de cette émission, Monsieur le Ministre. Il s'agit du pacte de doublement des recettes et je signale à nos auditeurs qu'il ne s'agit pas de dédoublement de recettes, mais il s'agit bien du doublement des recettes. Le 17 mars dernier, avec les régies financières, vous signez donc ce pacte, mais en moins d'un mois, vous présentez un bilan satisfaisant, la Direction générale des impôts en tête avec plus de 120% de recettes, la DGRAD avec 103%, et seule la DGDA avec Sofida avait réalisé moins de recettes, c'est-à-dire soit 57%. Est-ce, ce bilan est-il réaliste? Pourquoi vous l'attribuez à ce pacte alors qu'il y a eu des actions qui ont précédé votre nomination?
Bon, écoutez, je crois qu'il faut relativiser les appréciations des uns et des autres et demeurer